parler de l'obéissance et de la nécessité de l'obéissance, parce que il n'y a pas de plus grande bénédiction que d'obéir à Dieu. C'est le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est clair. C'est beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu. Est-ce qu'ils lui obéissent? C'est tout simple. Il ne s'agit pas d'avoir un amour qui a des sentiments, c'est une émotion. Il y a des personnes qui confondent, hein. Ils disent j'ai une émotion pour Dieu. Quand je parle de Dieu, je suis très ému, très. Ce sont des émotifs. Et ça ne veut pas dire que je ne condamne pas la chose, hein. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas confondre. C'est l'amour se manifeste. L'amour se manifeste dans l'obéissance. Alors si il y a des commandements, eh bien la première des choses, c'est de les rechercher. De rechercher dans la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu, on la lit avec sagesse pour s'instruire. On ne la lit pas comme on lit un roman. C'est vrai qu'il y a une lecture, ce qu'on pourrait appeler une lecture cursive, hein, j'emploie le terme dédié à la chose, c'est-à-dire que vous faites une lecture suivie et vous lisez régulièrement et sans approfondir. Et la plupart des gens, leur lecture de la Bible se limite à cela. Il n'y a aucun désir d'approfondir davantage. Ensuite, il y a des personnes qui lisent avec un dictionnaire à côté. Quand il y a des mots qui leur paraissent difficiles, eh bien, au lieu d'essayer de deviner, eh bien, ils cherchent le sens exact. J'ai connu des gens comme cela aussi, je connais des gens aussi qui prennent un stylo, un crayon et qui notent des choses. Et je me rappelle d'une dame, elle était secrétaire. Mais secrétaire dans un institut biblique, hein, elle était en contact avec la Bible constamment. Et puis, elle travaillait toujours, toujours, elle avait toujours eu un papier et un crayon, et tout, elle notait tout, elle inscrivait régulièrement, méthodiquement, tout ce qu'elle lisait était vraiment, c'était fait, quoi. Et puis, des années plus tard, quelqu'un lui a dit, écoutez, vous ne voudriez pas assurer une réunion de dames? Elle a dit, mais comment, je ne sais rien. J'ai pas fait l'institut biblique, je suis secrétaire dans un institut biblique, mais je ne sais rien. Alors, j'ai jamais suivi d'études. Et en fait, sans se rendre compte, elle savait beaucoup de choses. Beaucoup plus que même des gens qui avaient fait des études. Parce que régulièrement, elle avait étudié pour elle-même, méthodiquement. Elle avait pris le temps de sonder la parole de Dieu, d'éprouver la parole de Dieu, de noter la parole de Dieu, si bien elle avait quelque chose à dire dans des réunions de dames. Dieu récompense toujours la fidélité. Quand on s'attache à la parole de Dieu, eh bien, il y en a un bénéfice. Vous avez quelque chose en vous. La parole de Dieu donne de la sagesse, elle donne de l'équilibre. Elle donne un enseignement qui purifie nos cœurs. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Vous pouvez lire tous les commentaires sur la Bible que vous voulez, ce n'aura jamais le même effet que la Bible, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante, elle est puissante, elle travaille dans nos cœurs. Mais à condition qu'on la lise sérieusement. Si vous faites des lectures comme ça, si on vous demande 5 minutes après qu'est-ce qu'on a lu, on ne sait pas, il y a un problème. La parole de Dieu ne travaillera pas dans votre vie, pas de la même manière. Elle travaillera quand même. La parole de Dieu est assez puissante pour travailler même quand il y a une petite chose qui accroche comme cela. Mais néanmoins, la parole de Dieu mérite d'être sondée et d'être approfondie. Il y a la lecture de la parole de Dieu, il y a la méditation de la parole de Dieu, et il y a la mémorisation de la parole de Dieu. Ça fait trois choses. Et cette parole que l'on médite, que l'on approfondit, eh bien, on finit par connaître, à savoir. Et bon, je suis pour la mémorisation de la parole de Dieu. Hein. J'y crois et je suis persuadé que chaque chrétien doit connaître certains versets clés, certains passages importants de la Bible, ils doivent connaître. Dans le train de Gif, je ne sais pas si c'est avant-hier, mais c'est très 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 récemment. J'étais dans le train Et donc assis comme ça, sans demander rien à personne. Et il y a deux jeunes filles qui se sont mises en face de moi, deux maghrébines. Alors à se chercher un truc qui n'existe pas et à essayer de le couvrir tant qu'elles pouvaient. Et puis un coup de téléphone, et il y en a. Bien sûr, ça se passait en arabe, j'ai pas compris. Et puis, quand ça a été fini, elle a dit: Oh, un tel, il connaît 45 sourates du Coran. Il venait de lui dire 45. Et elle se tourne vers l'autre, elle lui dit: Tiens, tu en connais combien? L'autre l'a avoué: 3. Ah, moi, 8. Je lui dis: C'est quand même quelque chose. Que on connaît, on sait. Nous, l'islam, on sait d'où ça vient, on sait ce que c'est. Mais ces personnes étudient le Coran, l'apprennent par cœur. Et ça, quand j'ai vu les jeunes filles, je me suis dit, ce sont des personnes totalement superficielles. Il n'y a aucune profondeur. Si on ne peut pas avoir une conversation sérieuse avec des personnes comme cela, elles se cherchent quelque chose sur le visage, elles se couvrent, elles étaient vraiment maquillées comme c'est pas possible. J'ai dit vivement le voile sur la tête, hein, ça va changer, ça va les changer. Mais ce n'est pas les cheveux qui ont besoin d'être couverts, ce serait plutôt le visage. Mais le problème, c'est l'anachronisme qu'il y a entre eux et nous. Nous, on a besoin d'être convaincus, on a besoin d'être persuadés. On nous dit, mais il faudrait apprendre quelques versets de la parole de Dieu par cœur. On ne vous dit pas des chapitres entiers, mais quelques versets. Eux, 45 sourates. Oh, il a l'intention d'apprendre, je crois qu'il y en a 102. Donc, il a fait plus de la moitié. Bon, il y en a quelques-unes qui sont un peu longues. Donc, s'il a pris les courtes, il a déjà pris il a le nombre, mais il n'a pas la quantité. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que dans notre vie chrétienne, on réagisse. Je ne vous les cite pas comme exemple. Ce n'est pas un exemple parce que ce sont des mémorisations méthodiques et ça n'apporte rien. C'est simplement apprendre par cœur. Et le prendre par cœur, ça ne sert pas à grand-chose. Mais il y a quand même une prise au sérieux, de sérieux. La parole de Dieu, on l'a entre les mains. On a ce privilège de la connaître. Et de pouvoir, on a accès à la parole de Dieu. Pendant combien de temps? Parce que moi, j'ai vu ces trois personnes, disons, ces deux jeunes filles et l'interlocuteur au téléphone. Je me suis dit, ce sont après tout trois qui sont pas représentatifs, peut-être, mais combien il y en a derrière qui eux connaissent plus et qui s'y attachent et qui sont fanatisés? Parce qu'il y a un fanatisme derrière. C'est pour gagner des places au paradis, parce qu'il faut ça. Mais pour nous, quand on étudie la parole de Dieu, c'est pour que la parole de Dieu change notre vie. C'est parce que la parole de Dieu, elle est précieuse. Parce qu'on aime savoir ce qu'il a dit. C'est Dieu a parlé. Il n'a pas parlé en l'air. Il n'a pas parlé simplement pour parler. Mais il a parlé pour nous enseigner et pour nous donner une direction. Pour que notre vie soit changée, qu'elle soit transformée. Il est dit, hein, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous avons des paroles inestimables. Aucun livre au monde ne peut prononcer une parole telle que celle-ci. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et puis le Seigneur Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce sont des paroles d'une valeur qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer. Nous les avons, nous les possédons. Et nous devons les saisir, les garder, les préserver, les conserver dans notre cœur, les repasser. Vous lisez la parole de Dieu. Quand vous la lisez, eh bien, vous vous approchez du livre saint. Vous vous approchez de ce que Dieu dit. Et si Dieu parle, si Dieu, par exemple, venait là, il était présent, il dit, prononcez trois paroles. Vous vous en souviendrez tout le reste de votre vie. Plus jamais ces paroles s'effaceraient. Et est-ce quelle est la différence? Si Dieu parle présent ici qu'il prononce des paroles ou s'il les a prononcées il y a 1000 ou 1500 ans. C'est la longueur de la rédaction de la parole de Dieu. C'est 1500 ans. Mais il y a 2000 ou 3500 ans. Voilà, c'est plus exact. Mais c'est la même chose. Dieu a parlé. Dieu s'est révélé. Dieu a dit. Satan est venu dire à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Parce qu'il se méfie de la parole de Dieu. Il essaye de mettre le doute dans nos cœurs sur la parole de Dieu, de nous faire croire que la parole de Dieu, on peut la discuter, qu'on peut la négliger, que l'on peut prendre des libertés avec la parole de Dieu, qu'on peut prendre la moitié d'un verset et laisser l'autre partie. Mais la parole de Dieu doit être conservée et gardée dans notre cœur, préservée de toute manipulation, de toute édulcoration, excusez-moi le mot, on ne diminue pas. On ne re se retire pas loin de la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et je pense que c'est nécessaire que nous prenions bien conscience de cela. Vous prenez entre vos mains. On n'a pas. On a appelé les chrétiens qui lisent la Bible, qui adoraient la Bible. Ils ont le livre. Le livre lui-même est un livre qui ressemble à tous les autres. Il y a une couverture, il y a des pages, et c'est écrit avec de l'encre. Mais au-delà de ce qui est de l'impression et de la couverture et des pages, il y a ce qui est écrit, il y a le message, qui est écrit avec des lettres et de l'encre et tout cela. C'est ce message-là, la Bible. Ce n'est pas le livre en lui-même. La Bible peut prendre des multitudes de formes. Il y a la Bible sur microfilm, il y a la Bible audio, il y a des multitudes de formes de la Bible. Pendant des siècles, on a connu la forme que nous avons entre les mains. Mais il y a aujourd'hui d'autres formes. Mais c'est toujours la parole de Dieu. Et donc, notre responsabilité, nous, en tant que chrétiens, c'est de la méditer, de l'approfondir, de la garder, de la préserver. C'est la parole de Dieu. Et si vous n'avez pas une méthode pour lire la parole de Dieu, alors je vous encourage à en avoir une. Ne faites pas n'importe comment. C'est peut-être qu'au début, oui, on lit un peu au hasard, mais c'est bien d'avoir une méthode. C'est bien de prendre du temps, de savoir le temps que l'on va passer. C'est de ne pas être bousculé, de prendre une heure spéciale. Quand je dis une heure, un temps spécial. Ça peut être une heure si vous avez une heure. Ça peut être un quart d'heure si vous avez un quart d'heure. Mais quand vous faites ces choses, faites-le bien. Faites-le à la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas sous le regard des êtres humains. Vous êtes sous le regard de Dieu. Et c'est entre Dieu et vous. C'est votre contact avec Dieu. Dieu parle. Et vous priez, vous dites, Seigneur, parle-moi. Enseigne-moi. Éclaire-moi pour que je comprenne ta parole. Que ta parole agisse en moi, qu'elle travaille mon cœur, qu'elle change ce qui doit être changé. Vous savez, on dit parfois qu'on a de mauvaises habitudes. Il y a des choses qui sont déplorables dans notre vie, on est parfois les seuls à le voir. Et alors, on se désole et on se dit, comment est-ce que je vais changer? Eh bien, lisez et méditez la parole de Dieu et placez cela sous son contrôle. C'est sous sa main. Ce n'est plus votre problème, ça devient le sien. Et vous lui dites, Seigneur, change. Et le Seigneur changera non pas le fruit, mais la racine. Dieu ne va pas changer les fruits pour que vous soyez plus beau, mais il va changer la racine pour que les choses soient plus profondes, qu'elles soient plus réelles, qu'elles soient plus durables. Et qu'un jour vous puissiez constater et que les autres puissent constater qu'il y a un changement réel, un vrai changement. Parce que vous méditez et vous approfondissez la parole de Dieu. Vous savez, des disciples, quand ils avaient été première comparution devant le Sanhédrin, on les a reconnus pour avoir été avec Jésus. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec Jésus? Ils se tapaient sur l'épaule? Non, c'était l'enseignement. Le Seigneur Jésus leur parlait, il les enseignait. Et ils avaient écouté l'enseignement. Et quand ils ont vu l'assurance, ils ont dit, ce sont des gens du peuple. D'où leur vient cette assurance? Ils sont étonnés. Mais je peux vous dire que dans les siècles passés, il y a des chrétiens qui ont été persécutés et ils n'étaient jamais rien de plus que des paysans. Mais ils lisaient la parole de Dieu et ils étaient devant des inquisiteurs qui les interrogeait et qui leur demandait compte de ce qu'ils croyaient. Et eux, ils disaient non, mais dans ce verset, il est dit. Et ils parlaient comme des théologiens à des inquisiteurs qui étaient eux-mêmes des théologiens. Et souvent, les inquisiteurs étaient consternés de voir que ces gens-là en savaient plus qu'eux et qu'ils maîtrisaient la parole de Dieu bien mieux qu'eux. Je me rappelle d'une jeune fille, elle était allée voir quelqu'un de religieux, je ne dirais pas ni les noms ni les mouvements, et elle était allée le voir pour se renseigner sur certaines choses, et elle a commencé à parler et tout, et à témoigner, cet homme religieux lui a dit: « Je crois que mademoiselle, que vous connaissez mieux la Bible que moi. » C'est une constatation. C'est un théologien pourtant, de son mouvement. Mais c'est un théologien. Il avait en principe lu la Bible. Mais elle pouvait lui citer des versets, lui montrer des choses et avoir des arguments. Et pourtant, c'était membre d'une église. Elle n'avait fait aucune étude de théologie. Elle avait simplement lu la parole de Dieu. Elle l'avait approfondie. Elle avait lu sérieusement, avec le désir de plaire à Dieu, avec adoration vis-à-vis de celui qui a inspiré la parole de Dieu, en faisant appel au Saint-Esprit pour qu'il éclaire, pour qu'il montre, pour qu'il révèle. C'est comme cela que des personnes qui semblent être ne pas avoir une grande instruction peuvent parfois dire et reprendre et dire non, ça ce n'est pas juste. Parce que la parole de Dieu dit ça. Et je crois que si la parole de Dieu dit ça, nous devons agir de telle manière. Je connais un mouvement où normalement, quand les personnes, les membres de leur rassemblement se retrouvent, et ils discutent sur certains sujets ou sur une situation délicate, eh bien, un moment, il y en a un qui dit: attendez, il serait bon de revenir à ce que dit la parole de Dieu. Parce que là, nous sommes en train d'exprimer des états d'âme. Les états d'âme, d'accord. Mais que dit sur ce sujet bien précis la parole de Dieu? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui nous éclaire dans la parole de Dieu sur la situation dans laquelle nous sommes en ce moment? Et là, on retourne à la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui ramène à la parole de Dieu. Que dit Dieu? Je me rappelle de cette histoire, c'est là que je termine. C'était en Chine. Il y avait un homme qui avait une rizière. Et il avait un voisin qui était, je pense, au sein, je me souviens, il était au-dessus de lui, parce que les rizières sont un étage. Donc, il avait pompé l'eau le soir pour arroser tôt le matin. Alors, il arrive pour arroser son champ, et l'eau qu'il avait pompée n'était plus dans le réservoir. Mais par contre, le champ du voisin, il était bien arrosé, hein. Alors il a dû pomper rapidement le matin, il était même un peu en retard, il a pompé le matin pour arroser son champ. Alors, le lendemain, bon, il a fait la même chose, et de nouveau, le champ du voisin était bien arrosé, et le sien était un peu aride, et il avait besoin de refaire le truc. Et alors il se trouvait vraiment complètement désorienté, et il s'est adressé à l'église, et il a dit aux frères et sœurs: voilà ce qui se passe, et je suis dans un grand dilemme, je ne sais pas quoi faire. Les frères et sœurs lui ont dit: écoutez, il n'y a qu'une réponse dans la parole de Dieu. Si ton ennemi te fait du mal, fais-lui du bien. Alors, tu n'as qu'une seule chose à faire, lui faire du bien. Tu ne peux pas lui faire du mal. La parole de Dieu ne t'y autorise pas. Alors, il a fait le bien qu'il a pu pour le voisin. Quand le voisin est arrivé le lendemain pour mettre l'eau qui était montée dans son champ, il a trouvé son champ déjà arrosé. Et le champ de celui qui lésait, du chrétien, était aussi arrosé. Stupéfaction. Le lendemain, pareil. Le surlendemain, pareil. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? C'est que cet homme a commencé à s'intéresser à la religion de l'homme qui lui faisait du bien. Et il s'est converti. Si on rend le mal pour le mal, on obtient la haine, la dispute, la querelle. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Si on fait ce que dit la parole de Dieu, on s'en porte bien. Si on n'obéit pas, mais parfois, on n'a pas toute la connaissance. Alors c'est bien, ils ont appelé les frères et sœurs, ils ont demandé, ils ont dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et dans bien des situations, des chrétiens se sont trouvés dans des dilemmes. Aucun avait la solution. Et ils se sont tenus devant la parole de Dieu et ils ont prié. Et ils ont demandé à Dieu de les éclairer. Dans cette situation, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Éclaire-nous par ta parole. Dis-nous ce que nous avons besoin de savoir. Et souvent, on sait déjà ce qu'il faut faire. Dieu n'a qu'à confirmer ce qu'il a déjà dit. Mais si on médite, si on approfondit dans les situations spéciales, eh bien, on est prêt. Et c'est pour cela que la méditation et l'étude de la parole de Dieu est d'une importance capitale, capitale. Ce n'est pas des paroles humaines que nous méditons, ce sont des paroles divines. Ce sont des paroles inspirées de Dieu. C'est vrai que des hommes ont écrit, c'est vrai qu'il y a les psaumes de David, il y a les épîtres de Paul, il y a l'évangile de Jean. Mais au-delà de Jean, de Pierre, de Paul, de David, de Moïse et de toutes ces personnes, il y a Dieu. C'est la parole de Dieu, écrite par la main de Paul, par la main de David, inspirée. C'est si bien que des hommes ont exprimé la pensée de Dieu. Et vous retrouvez la personnalité de Paul, la personnalité de David. Vous pouvez, dans les psaumes, vous lisez, si vous avez un petit peu d'expérience, vous dites, ah, ça, ce n'est pas un psaume de David. Et ça, c'est un psaume d'Azaph. Parce que Azaph, il a un style. Et Corée a aussi un style. Et on sent les époques, on sent les événements qui ont dicté. C'était un moment crucial de la vie d'Israël. Et vous savez, parce que Dieu n'a pas aliéné la personnalité des gens qui ont écrit. Mais c'est quand même la parole de Dieu, inspirée de Dieu, avec les mots de Paul, avec les mots de David, avec les expressions, les formes de phrases, les manières de penser, etc. C'est la parole de Dieu. Si quand vous prenez votre Bible, remerciez Dieu, rendez grâce de ce que vous avez la parole de Dieu entre les mains. Prenez soin d'avoir du respect, un saint respect, pour la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel livre. J'ai été stupéfait quand j'étais étudiant en théologie que des étudiants parlaient, discutaient sur des sujets bibliques. Alors on discutait à tort et à travers. Moi, mon opinion, mais non, la Bible dit ça. Et je me rappelle même d'étudiants qui étaient très légers avec la parole et qui se moquaient, qui trouvaient des contradictions, des ceci et des cela. Ils n'ont pas fait long feu. C'est la parole de Dieu. Nous l'avons entre les mains et nous devons avoir ce respect, ce saint respect de la parole de Dieu. C'est là que je termine.